VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui VOA Afrique, édition du lundi 8 novembre 2021. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Mouamadou Oumfa.
Nous commençons par les titres.
Au Soudan, grenades lacrymogènes et arrestations de manifestants au premier jour d'une nouvelle campagne de désobéissance civile face au putsch de l'armée.
En Éthiopie, les rebelles tigréens écartent l'éventualité d'un bain de sang dans la capitale en réaction à des avertissements du gouvernement à la population d'Addis Abeba.
Au Mali, sanctions individuelles de la CEDEAO contre les membres de la junte au pouvoir.
En Centrafrique, l'ancien président et chef rebelle François Bozizé, réfugié à N'Djamena dans l'attente d'un hypothétique dialogue.
Ne manquez pas notre page sport avec Élisée Oumpatine, mais pour l'instant, le journal. Au Soudan, les forces de sécurité ont tiré hier dimanche des gaz, des grenades lacrymogènes sur plusieurs cortèges et arrêté des dizaines de manifestants au premier jour d'une nouvelle campagne de désobéissance civile contre l'armée. Claire Morin-Gibourg.
Des centaines de manifestants ont défilé à Wad Madani dans le sud ou à Atbara dans le nord. À Khartoum, la capitale, deux cortèges ont essuyé des tirs de grenades lacrymogènes. L'un dans le quartier d'Albouri, l'autre composé de dizaines d'enseignants qui protestaient silencieusement contre les décisions du général Bourane. Selon le syndicat des enseignants, 87 manifestants ont été arrêtés sans mandat et une enseignante a eu la jambe cassée. Militaires, civils et médiateurs tentent de négocier une issue à la crise à huis clos. Jusqu'ici, ces discussions n'ont mené ni à la formation d'un nouveau gouvernement ou au retour de l'ancien cabinet, ni à l'adoption d'une position claire sur la reprise ou non de la transition démocratique lancée à la chute de Béchir. Dimanche soir, d'anciens rebelles armés qui avaient signé la paix avec les autorités de transition, alors incarnées par le général Bourane et le technocrate Hamdok, ont dénoncé le coup d'État, faisant redouter un retour des tensions.
En Éthiopie, une campagne pro-gouvernementale a rassemblé des dizaines de milliers de personnes à Addis Abeba, la capitale. Les rebelles tigréens ont de leur côté assuré qu'il n'y aura pas de bain de sang s'ils renversaient le gouvernement, Nani Talani.
Dimanche, des milliers de personnes se sont réunies sur la place Meskel à Addis Abeba en soutien au gouvernement. La maire d'Addis Abeba, Adenesh Abebe, a affirmé que les ennemis de l'Éthiopie voulaient terroriser la population. Elle a également dénoncé l'attitude de l'administration Biden, très critique sur ce conflit. Ce rassemblement s'est tenu 5 jours après que les autorités ont décrété l'état d'urgence officiellement pour protéger la population du Front de libération du peuple du Tigré. Le porte-parole du TPLF, Getachew Reda, a lui balayé les craintes d'un bain de sang à Addis Abeba s'il devait entrer dans la capitale éthiopienne pour renverser le gouvernement d'Abiy Ahmed, estimant que la population ne leur est pas farouchement opposée. L'Union africaine et l'ONU ont dépêché leurs représentants dimanche à Mekele, la capitale tigréenne. Depuis Rome, le pape François a dit suivre avec inquiétude la situation dans le pays et renouveler son appel à la voie pacifique du dialogue.
La CEDEAO a adopté hier dimanche à Accra des sanctions individuelles contre les membres de la junte au pouvoir au Mali en raison du retard dans l'organisation des élections. Plus de détails avec Abdourahmane Dia.
C'est à l'issue du sommet extraordinaire sur la situation au Mali et en Guinée hier à Accra que l'annonce a été faite. Les sanctions concernent toutes les autorités de la transition et rentrent en application immédiatement, a déclaré Jean-Claude Cassibrou, le président de la commission de la CEDEAO. Ces sanctions comprennent l'interdiction de voyager et le gel des avoirs financiers, a-t-il détaillé, précisant qu'elles visaient aussi les membres de leur famille. Selon lui, le Mali a officiellement écrit à Nana Akufo-Addo, président de la CEDEAO, pour lui notifier ne pas pouvoir tenir les élections à la date prévue. La CEDEAO a décidé de sanctionner tous ceux et celles qui sont impliqués dans ce retard, a expliqué M. Cassibrou. Dimanche, à Accra, la CEDEAO a également maintenu les sanctions individuelles déjà prises contre les militaires ayant pris le pouvoir le 5 septembre en Guinée et la suspension du pays de l'organisation. La CEDEAO a proposé un délai de 6 mois pour organiser les élections en Guinée et insisté sur l'urgence de libérer le président déchu Alpha Condé en résidence surveillée depuis le coup d'État.
Le chef des rebelles centrafricains, l'ex-président François Bozizé, est dans la capitale du Tchad avec plusieurs de ses alliés, dans l'attente d'un hypothétique dialogue avec Bangui qui dit s'y refuser. C'est ce qu'ont indiqué dimanche N'Djamena et un responsable de la rébellion. Les versions divergent.
Pour les uns, le chef de la coalition des Patriotes pour le changement, Alliance, qui a lancé une rébellion en décembre 2020, est réfugié à N'Djamena depuis que ses troupes ont été largement repoussées. Pour les autres, il s'y est rendu pour un éventuel début de dialogue avec le pouvoir du président centrafricain Faustin Akanji Touadéra. Mi-septembre, les chefs d'État de la région réunis à Luanda avaient rédigé une feuille de route pour un dialogue, notamment entre les rebelles et Bangui.
Une commission d'enquête regroupant des élus locaux de la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a formulé de lourds griefs contre des exploitants miniers chinois accusés de fraude et de détruire les écosystèmes, a indiqué hier son rapporteur.
En Libye, le premier ministre Abdelhamid Deba a défendu dimanche sa chef de la diplomatie, suspendue et interdite de voyager, des mesures qui, a-t-il souligné, relèvent des prérogatives exclusives du premier ministre. Il a donné instruction à Madame Mangouche d'ignorer la suspension, mais ce dernier épisode illustre bien les tensions croissantes au sein du pouvoir intérimaire à l'approche d'élections cruciales.
Samedi, le CP, conseil présidentiel, a annoncé la suspension de la ministre des Affaires étrangères, avec interdiction donc de quitter le territoire d'ici à la remise sous 14 jours d'un rapport sur des irrégularités administratives qu'elle aurait commises. Une commission d'enquête doit vérifier si elle n'a pas pris des décisions d'ordre politique sans consulter le CP, l'organe présidentiel libyen.
À noter que doit se tenir le 12 novembre à Paris une conférence internationale sur la Libye qui discutera de l'élection présidentielle, la toute première au suffrage universel prévue le 24 décembre, devant être suivie un mois plus tard par des législatives.
Le président Sierra Leone, Julius Maada Bio, a appelé dimanche ses compatriotes à tirer les leçons de l'explosion d'un camion-citerne qui a fait au moins 101 morts et 91 blessés à Freetown, pour que cela ne se reproduise plus jamais. Un deuil national de 3 jours est observé à partir de ce lundi. Selon des témoins, la majorité des victimes sont des vendeurs ambulants et des motocyclistes piégés par les femmes pendant qu'ils tentaient de récupérer le carburant s'échappant du camion-citerne accidenté.
Nous allons donc continuer avec une actualité irakienne. Le premier ministre Mustafa al-Kazimi est sorti indemne d'une tentative d'assassinat à Bagdad, une nouvelle escalade dans la crise en Irak. Le président Biden a condamné fermement cette attaque. Michel Joseph.
La tentative d'assassinat contre le premier ministre irakien dimanche à Bagdad a été menée par 3 drones, a-t-on appris, auprès de 2 sources de sécurité. 2 des drones ont été abattus en plein vol, mais le 3e a pu faire exploser sa charge, blessant 2 gardes du corps de M. Kazimi, qui s'en est, lui, sorti indemne. Plusieurs pays et organisations, dont les Nations Unies et la Ligue arabe, ont condamné l'attaque, la première du genre contre la résidence de M. Kazimi, située dans la zone verte, un périmètre ultra protégé qui abrite également l'ambassade des États-Unis. Le président américain Joe Biden s'est dit soulagé que le premier ministre irakien n'ait pas été blessé. Au pouvoir depuis mai 2020, Mustafa al-Kazimi a aussitôt appelé sur Twitter au calme et à la retenue de la part de tous pour le bien de l'Irak.
Le président Biden a qualifié hier de comédie les élections au Nicaragua, élections qui vont permettre au président Daniel Ortega de se maintenir au pouvoir pour un quatrième mandat de 5 ans après l'incarcération de tous les candidats rivaux, ce que le président du Nicaragua et son épouse, la vice-présidente Rosario Murillo, ont orchestré aujourd'hui est une élection pantomime qui n'était ni libre ni juste et certainement pas démocratique, a dit M. Biden, cité dans un communiqué de la Maison-Blanche.
Les États-Unis rouvrent leurs frontières terrestres et aériennes ce lundi aux voyageurs vaccinés contre le COVID-19 après 20 mois de restrictions. Pour les voyageurs arrivant par les airs, les États-Unis demanderont, en plus d'une preuve de vaccination et d'un test effectué dans les 3 jours avant le départ, la mise en place d'un système de suivi des contacts par les compagnies aériennes.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Du football pour commencer avec la Ligue des champions féminines en Afrique.
Oui, et la compétition se déroule actuellement en Égypte avec 8 clubs répartis en 2 groupes de 4. La poule A sera à sa 2e journée aujourd'hui et après sa victoire inaugurale, le club du pays hôte, Wadi Degla, tentera d'enchaîner face aux équato-guinéennes de Malabo King, tout comme les ghanéennes d'Asakas Ledi qui affronteront les maliennes de l'AS Mandé. La poule B livrait ses premiers matchs hier et belle entame des marocaines d'Asfa qui ont largement dominé les nigérians de Rivers Engel 3-0. Et puis, victoire également de Mamelodi Sundowns. Les Sud-Africaines ont battu les Kenyans de Vienna Queens 1-0.
Le foot chez les hommes et on reste en Égypte avec la 3e du championnat.
Une 3e journée marquée par le derby du Caire, remporté largement par Al Ahly 5-3 devant Zamalek. Un succès qui le place en tête du classement avec 9 points, même nombre que Pyramide vainqueur 3-0 d'Al Ittihad. Zamalek descend lui à la 5e place avec 6 points. Le Maroc aussi jouait son derby de Casablanca entre le Raja et le Wydad. Et les deux rivaux se sont quittés sur un nul de 1-1. Un résultat qui profite au WAC, leader au classement avec toujours 5 points d'avance sur le Raja. Et puis, en RDC, le TP Mazembe, après avoir battu 3-0 Lubumbashi Sport, partage la première place avec le FC Lupopo, vainqueur 1-0 du Racing Club de Kinshasa. Les deux clubs comptent 16 points chacun. L'ASV Club, classé 3e avec 14 points, peut passer devant en cas de victoire ce soir face à l'AC Kouya.
Direction le Bénin avec la suite de la première journée de la Ligue Pro.
Et le champion en titre, EZAE dans la zone B, s'est offert 1-0 Dynamo d'Abomey. Bon début également de son dauphin, Buff du Borgou, vainqueur 2-0 de Dynamo de Parakou dans la zone A. Victoire 1-0 de l'AS Tonnerre de Boycon devant Rorio FC de Comé. Ayema s'impose 2-1 à Paubert. Succès en déplacement aussi d'Espoir de Savalou 2-0 face à Soleil, tout comme Asvo 1-0 à Port-Novo contre Assos. Et puis, mauvaise entame des Dragons de Lomé battus 1-0 à domicile par l'AS Obemapo. Pour rappel, en ouverture de ce championnat, Coton FC de Ouida est allé battre les Requins de l'Atlantique 3-2.
Cyclisme à présent avec l'épilogue du Tour de Faso.
Oui, un tour remporté par l'Allemand Daniel Bilschmann devant le Marocain Oussama Kafi. Le Burkinabé Souleymane Kone finit 3e. Une 33e édition qui a rendu son verdict à l'issue de la dernière étape courue entre Komissiri et Ouagadougou, longue de 128 km. Et c'est le Sud-Africain Besson Gustave qui s'impose au sprint devant l'Ivoirien Issiaka Sissé. Et puis, du basketball pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit en NBA.
Washington et Milwaukee 101-94, Golden State et Houston 120-107, et les Clippers et Charlotte 120-106, Brooklyn et Toronto 116-103, Cleveland et New York Knicks 126-109, Orlando et Utah 107-100, Oklahoma City et San Antonio 99-94. Mohamed, pour terminer, une nouvelle plutôt troublante du PAM.
Oui, Idrissa, le nombre de personnes qui sont à la limite de la famine dans 43 pays a atteint 45 millions. Les situations d'insécurité alimentaire aiguë ayant augmenté dans le monde en tenant compte des 3 autres millions de personnes désormais confrontées à la famine en Afghanistan. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le Programme alimentaire mondial.
Des dizaines de millions de personnes sont au bord du gouffre. Les conflits, le changement climatique et le COVID-19 ont augmenté le nombre des personnes personnes en situation de famine aiguë, a déclaré le directeur exécutif du PAM, David Beasley. Des familles sont obligées de faire des choix dévastateurs, mariant les enfants trop jeunes, les retirant de l'école ou les nourrissant avec des criquets, des feuilles ou des cactus, selon le PAM.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, le président Mohamed Bazoum était ce week-end à Bani Bangou, dans la région de Tillaberi. Cette localité a été la cible le 2 novembre d'une attaque terroriste qui a coûté la vie à 69 personnes, dont le maire de la ville. Monsieur Bazoum est parti leur réaffirmer le soutien de l'État et sa volonté de venir à bout de cette insécurité qui prévaut dans la zone. Le reportage de notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
C'est pour témoigner de sa compassion et celle du peuple en général aux populations de Bani Bangou que le président Bazoum Mohamed a déclaré s'être rendu dans cette localité après l'attaque du 2 novembre.
C'est mon devoir élémentaire qui commande que dans des instants de ce genre, je vienne personnellement partager avec vous votre deuil, vous soutenir dans votre malheur. Vous soutenir dans votre souffrance. Et je me devais de venir ici à Bani Bangou vous dire que cette souffrance, elle est la mienne.
À demi-mot, le chef de l'État a légitimé l'autodéfense des populations face à la recrudescence des attaques des groupes armés non étatiques.
Je comprends que vous ne soyez pas satisfait de notre rendement, de nos performances. Si vous êtes révolté légitimement et si vous pensez que vous pouvez assurer votre défense vous-même, c'est légitime. Mais celui qui doit assurer votre défense et sur lequel vous devez compter, c'est l'État. Et je suis venu vous dire qu'il faut compter sur nous. Comptez sur votre armée.
L'autodéfense, c'est malheureusement l'option de beaucoup de populations de la région de Tillaberi, car en effet, deux jours après le massacre de Bani Bangou, au moins 16 soldats ont été dans la commune voisine de Lanzourou. Amadou Harouna Mega, président de l'association des ressortissants de la région de Tillaberi.
Si les populations sont arrivées à cette décision, c'est parce que quelque part, il y a défaillance dans le système. Il y a défaillance au niveau de l'État. Donc il faut que les gens, pour que tout le monde ne meure pas, il faut que des gens se sacrifient. Et c'est ça que ces gens-là ont compris. Et ils ont pris, en tout cas, les âmes dont ils disposent pour aller se défendre. C'est lourd quand même, c'est une hécatombe ce qui est arrivé. Mais bon, il faut que cela serve de leçon aux autres, n'est-ce pas, pour sortir, s'organiser et sortir pour la mémoire de ceux-là. Il faut défendre leur mémoire.
Devant les populations de Bani Bangou, le président Mohamed Bazoum a promis un plan d'urgence alimentaire puisque du fait de l'insécurité, la plupart des producteurs n'ont pas cultivé cette année, ce qui laisse présager d'une situation assez difficile sur le plan alimentaire pour les populations de cette zone. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Nigeria, la Commission électorale nationale indépendante a commencé hier soir à proclamer les résultats de l'élection de samedi pour le poste de gouverneur de l'État d'Anambra dans le sud-est du pays. L'ancien chef de la Banque centrale, Charles Chukwuma Soludo, est donné favori. Il se présente pour le All Progressive Grand Alliance qui gouverne cet État depuis plus d'une décennie. Notre correspondant Gilbert Tamba fait le point.
Les populations d'Anambra ont défié la menace des séparatistes Biafra pour aller voter sous une forte présence des forces de sécurité. Les opérations se sont déroulées dans plus de 5000 bureaux de vote dans l'État pour quelques 2,5 millions d'électeurs inscrits. Certains électeurs donnent leur avis sur le scrutin.
Le vote est en cours ici dans le district d'Idemili. Le petit problème auquel nous sommes confrontés ici est que le système bimodal d'accréditation des électeurs ne fonctionne pas. Il y a des problèmes d'identification des électeurs. Les gens sont sortis en masse et les agents de sécurité sont également présents pour assurer la sécurité. Nous sommes ici au bureau de vote de l'école secondaire Saint-John Onitsha. Tout le monde vote normalement, il n'y a pas de problème. Il y a du personnel de la police partout et le vote a commencé quelques minutes après 8 heures ce matin.
18 partis politiques et 18 candidats étaient dans la course pour ces postes de gouverneur. Le gouverneur sortant Willy Obiano, qui achève son second mandat à la tête de cet état du sud-est du Nigeria. Valentin Odhiambo est le candidat du principal parti d'opposition, le PDP.
Je veux féliciter la CENI pour l'excellent travail réalisé. La possibilité d'introduire cette machine est une innovation qui va nous aider à réduire la fraude électorale. Je suis un peu inquiet du temps qu'il faut prendre pour identifier et accréditer l'électeur avec cette machine pour pouvoir voter.
En général, l'élection s'est déroulée dans le calme, mais il y a eu quelques incidents et irrégularités qui ont été signalés. La Commission électorale nationale indépendante a déployé pour la première fois un dispositif moderne connu sous le nom de bimodal BIWAD pour l'accréditation des électeurs pour capturer les visages et les empreintes digitales des électeurs. Le commissaire électoral national indépendant pour l'État d'Anambra, Nwachukwu Orjish, reconnaît quelques problèmes qui ont émaillé l'élection.
Premièrement, la commission a eu des difficultés de déploiement de matériel. Deuxièmement, il y a eu des empêchements du vote qui avaient déjà débuté. Troisièmement, nous avons eu dans certains endroits des dysfonctionnements de notre machine d'accréditation BVAD. Et enfin, nous n'avons pu déployer nos agents dans des endroits pour nous représenter en tant que commission.
Certains groupes d'observateurs, comme le CDD, ont aussi signalé les achats de votes durant le scrutin de samedi. Saïd Husseini est chargé de la recherche au Centre pour la démocratie et le développement CDD.
Nous avions noté dans plusieurs endroits des incidents d'achat de vote qui pourraient certainement affecter la crédibilité des résultats de l'élection. Les observateurs de CDD ont identifié les cas d'achat de vote dans les 21 sous-préfectures de l'État. Dans plusieurs cas, le tout se déroulait en présence des officiers de police certainement corrompus.
Le nouveau gouverneur aura pour priorité la question de l'insécurité dans le sud-est du pays. Le candidat des Abga, l'ancien chef de la Banque centrale du Nigeria, Tias Soludo, a promis, s'il était élu, de changer, développer, stimuler, transformer l'État d'Anambra d'un État commercial principalement informel en une économie formelle, productive et compétitive. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Tchad, deux faits majeurs ont marqué la semaine passée. Les personnes handicapées ont organisé une journée sans tricycle à N'Djamena pour exiger du gouvernement de transition la levée de la décision leur interdisant de traverser les frontières Tchad-Cameroun. Elles ont été dispersées par la police. Entre-temps, des militaires en mission officielle ont profané une paroisse située dans le 9e arrondissement de N'Djamena et le curé injurié et brutalisé. Notre correspondant André Kotmadjingar fait le point.
Ali Osembede Justin, alias Gilet Noir, leader du mouvement de protestation contre l'interdiction au tricycle de traverser les frontières Tchad-Cameroun, il galvanise ses compagnons de lutte, une cinquantaine, qui ont tenté, malgré leur situation, d'exprimer leur mécontentement sur la principale avenue de N'Djamena. Bien qu'ils rampaient presque sur la voie bitumée, la police les rattrape à quelques mètres du trajet et les arrose de gaz lacrymogène.
On a commencé devant l'ambassade et là, les policiers nous ont arrivés ici. Ah, bonjour les dégâts, ils nous ont tirés. Moi, je suis tombé, certains d'entre nous là, ils ont eu des blessures. Maintenant, j'ai mal à la poitrine.
Les témoins et victimes de cette bavure policière expriment au micro de VOA Afrique leur indignation.
On en a assez mal de la promesse du gouvernement par rapport à la levée de la mesure de la rue de Koussiri. Donc, il faut marcher pour que le gouvernement puisse nous écouter. Parce que c'est la seule issue pour que la personne qui habite à vivre dans ces pays. Même on donne de l'argent gratuitement, ça va finir. Et nous voulons nous prendre en charge. Il y a parmi nous des gens qui ont des diplômes qui ne sont pas intégrés. Là, j'ai déjà avancé. Nous sommes déjà fatigués. Les enfants sont là. Il y a l'occasion qui est là. Il y a le manger qui est là. Il y a la santé qui est là. Il faut tout faire.
J'ai ma licence en gestion de ressources humaines. J'ai ma maîtrise en histoire. L'État ne veut pas m'intégrer. Et pour me prendre en charge, il faut que j'aille à Koussiri. C'est ça notre principale activité de revenu. On sortit jusqu'à ce que nous tombions et puis laisser le Tchad sans personne handicapée.
On va faire comment? On peut même on veut ramener dans des véhicules. On nous jette en prison. On n'a pas nos droits. Enterrez-nous vivants.
Ali, au sommet de Justin, leader de ce groupe de personnes handicapées, informe que d'autres manifestations seront programmées si la mesure n'est pas levée.
Nous, on a des charges. On loue. Nos enfants sont à l'école. Mais nous voulons se prendre en charge. Tant qu'il n'y a pas gain de cause. Le 10, là, on ne va pas ramper, mais peut-être on va sauter par le dos. On va se préparer le 10. Même heure, même lieu. On n'a pas demandé le départ du président de CMT. Mais nous demandons la levée de la route de Koussiri.
Dans la même semaine, un prêtre a été violenté dans le locaux de sa paroisse Njamena et son téléphone portable arraché par les militaires à bord de 3 véhicules qui ont fait irruption dans ce lieu de culte. Pour le chef de l'église catholique du Tchad, Mgr Edmond Djitangar, archevêque métropolitain de Njamena, cet acte confirme le mépris des personnes et des lieux de culte par ceux qui sont censés les protéger.
Nous tenons à dénoncer ces attitudes et comportements de mépris que certains compatriotes adoptent vis-à-vis de la religion des autres. C'est une forme d'intolérance qui ne doit pas avoir place dans une société plurielle comme la nôtre. Je demande aux autorités publiques de prendre conscience du caractère hautement sensible de tout ce qui touche le domaine religieux et le respect de ceux qui en sont les responsables, de garantir le caractère laïque de notre pays et le respect des lieux de culte.
Aucun membre du gouvernement de transition ne s'est prononcé pour le moment sur la revendication des personnes handicapées et au traitement inhumain et dégradant infligé à un prêtre dans sa paroisse par des militaires. André Kodouma Djingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Les rideaux sont retombés sur le Tour cycliste international du Faso 2021. Après 10 jours de compétition, c'est le coureur allemand Daniel Michelmann de la formation helvétique Kiba Gobor qui a terminé leader avec le maillot jaune. Le Burkina, pays organisateur, est passé à côté de sa course, nous dit notre correspondant Kader Traoré.
C'en est fini pour le Tour du Faso 2021. Après 10 étapes en 10 jours et 1233 km de course, le maillot du leader a été enlevé par l'Allemand Daniel Bichelmann de l'équipe suisse Kibag Oborg. Il est suivi du Marocain Osama Kafi à 27 secondes et du Burkinabé Suleiman Kone à 28 secondes. Une victoire dont le vainqueur Bichelmann ne cache pas sa joie.
C'est plus qu'un rêve qui se réalise. J'ai passé ces 10 dernières années à m'entraîner dur. C'est la première fois que je fais une course aussi parfaite et j'étais à 100% en possession de mes forces pendant ces 10 jours. Je sais que cette victoire va rester gravée durant le reste de ma vie.
Cette 33e édition aura été des plus relevées au vu de l'adversité et des vitesses moyennes imprimées à la caravane. Là-dessus, le directeur technique du Burkina s'en réjouit. Martin Sawadogo.
En termes de sportivité, je peux dire que le Tour 2021 est un tour réellement réussi pour le Burkina. Parce que c'est un tour réellement qui est bien relevé. Et aujourd'hui, nous enregistrons une moyenne de près de 46 km/h. Donc, cela veut dire que nous avons fait des moyennes de plus de 50, des moyennes de 48, des moyennes de 47. Je trouve que c'est une compétition qui a réussi.
Cependant, si l'organisation a été un franc succès, les performances des étalons cyclistes sont en deçà des attentes avec seulement le maillot du meilleur jeune de la compétition pour Paul Domon. Malgré tout, le ministre en charge des sports, Dominique Nana, n'y voit pas une débâcle des coureurs burkinabés.
Ce n'est pas une déroute. C'est déjà d'abord un grand mérite que les étalons ont eu de pouvoir suivre cette vitesse. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, ça savait très bien que ces gens de tour sont très prisés. Ce n'est pas évident que chaque jour on puisse rapporter le tour. Et de reste, ce qui va donner la notoriété au tour, c'est qu'on n'organise pas pour le gagner. Et quand notre tour va atteindre la crédibilité qu'on va passer au point 2-1, vous verrez des plus grands champions qui vont venir. On fera des dizaines d'années sans gagner le tour. Mais espérons qu'un jour, par le travail qu'on fait là, un Burkinabé sera sur le Tour de France.
Parmi les équipes africaines invitées, la Côte d'Ivoire fait partie de celles qui ont remporté au moins une victoire d'étape, à l'instar du Cameroun, de l'Afrique du Sud, de l'Algérie et du Burkina. Le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Abou Sanogo.
Cette année, c'était pas facile. Le tour, le niveau était très haut cette année. Une victoire d'étape. On finit peut-être troisième ou deuxième. On finit ce podium encore. Le tour, c'est vrai, c'est pas mal. Une victoire d'étape, le classement. Et puis on a deux dans les 20 premiers. Avec les matériels, les moyens qu'on a, fait que le tour, c'est une fierté pour nous. On pas ridicule.
La 33e édition du Tour du Faso aura été celui des défis. D'abord, l'insécurité qui gangrène une partie du pays et aussi la COVID-19 qui avait d'ailleurs empêché la tenue de la course en 2020. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Mohamed Oumfa, Firmin Koyaveda à la mise en onde et Joubert El-Taïbib à la console. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.